Très bien. Bon, alors d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à parler ici, à échanger avec des gens qui travaillent sur les jeux vidéo. Vu qu'en économie, personne ne travaille dessus, donc j'ai pas souvent l'occasion d'avoir des rapports fructueux sur ce sujet. Donc, le titre, la théorie des jeux s'applique-t-elle à un bon jeu vidéo? Donc, c'était exprès pour vous choquer et pour m'obliger, à faire quelques remarques liminaires. Donc, la méthode des économistes, c'est d'y aller franco, à grands coups de couteau partout, en simplifiant autant qu'on peut, et à réfléchir après, quoi. Donc, là, je vais présenter, et puis après, on réfléchira, on verra est-ce que ce que je fais est interprétable, est-ce que ça sert à quelque chose, est-ce que ça sert à rien, etc. Donc, bon jeu vidéo, c'est juste, en fait, ça fait référence à une citation d'Émile Borel, qui est un mathématicien français du début du XXe et un des pères de la théorie des jeux, en fait, enfin, des ancêtres plutôt, qui disait que la théorie des jeux, en fait, ne peut s'appliquer qu'à de mauvais jeux et donc que ça ne sert à rien. Voilà, grosso modo. Donc là, la question, c'est de savoir est-ce que c'est une proposition est vraie ou non. Et donc, l'idée est de voir à la fois ce que les jeux vidéo peuvent apprendre à la théorie des jeux, qui est ma spécialité, et est-ce que la théorie des jeux vidéo peut nous apprendre quelque chose, peut nous apprendre quelque chose sur les jeux vidéo. Et donc, je préviens tout de suite, ce sera seulement certains types de jeux très particuliers. On étudiera seulement le comportement de certains joueurs très particuliers parce que, voilà, on n'a pas encore une théorie générale de l'action humaine sous toutes ses formes dans tous les jeux possibles, mais on y arrivera un jour. Ouais. Donc, commençons. J'imagine que vous n'êtes pas tous des spécialistes de la théorie des jeux. Il y a encore des gens qui n'en font pas. Commençons par présenter rapidement quelque chose de très simple. Donc voilà, donc ça, vous avez peut-être déjà vu des matrices comme ça, hein, donc ça représente une interaction avec deux joueurs. Donc là, le joueur 1 choisit jouer P ou F, le joueur 2 choisit jouer grand P ou grand F, d'accord. N'hésitez pas à me poser des questions à chaque fois que c'est pas clair, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Et donc voilà, ils ont chacun deux stratégies à jouer, et ça c'est leur paiement, c'est-à-dire que ça, si le joueur 1 joue petit P, le joueur 2 joue grand P, le joueur 1 a 1 et le joueur 2 a 1, d'accord. Puisque là, ça va, bon, vous voyez que c'est pareil dans les autres cases. Et donc, l'idée, c'est que bah, ça, c'est un jeu. Voilà, on pourrait inventer un petit jeu vidéo simple où les joueurs, ils peuvent cliquer sur la touche 1 ou la touche 2, qui s'appellerait P et F. Et puis, quand ils cliquent, il se passe quelque chose, on ne sait pas très bien quoi. Et puis, ça leur donne des paiements, par exemple. Le but de la théorie des jeux, c'est d'essayer de prédire ce que vont jouer les gens, d'accord. Donc, ce qu'ils vont, donc le concept qu'on utilise pour ça d'habitude, c'est ce qu'on appelle l'équilibre de Nash. Et c'est pas évident, en fait, les économistes ont longtemps demandé est-ce que l'équilibre de Nash c'était un truc utile, est-ce que ça veut dire quelque chose, est-ce que ça veut rien dire, pourquoi les joueurs joueraient ça, etc. Donc là, l'idée, c'est de se dire la chose suivante. C'est si, mettons que le joueur 2 joue grand P, d'accord. À ce moment-là, le joueur 1, il va préférer jouer petit f, parce qu'il aura 2, alors que sinon il a 1. D'accord ? Donc s'il savait que ce joueur-là joue grand P, il aura envie de jouer petit f. Inversement, si le joueur 1 joue petit f, le joueur 2 aura envie de jouer grand P, parce qu'il a 1, alors que là il aurait 0. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un équilibre de Nash. C'est-à-dire que si les deux joueurs étaient certains de... Enfin, si les deux... Mettons que les deux joueurs jouent une première fois, ils obtiennent ça. D'accord ? Si les deux joueurs pensent que s'ils répètent le jeu, l'autre joueur va jouer la même chose qu'avant, eux aussi joueraient la même chose. C'est pour ça que c'est ce qu'on appelle en économie un équilibre. C'est-à-dire, l'idée, c'est que si on arrive à quelque chose comme ça, bah, on n'en bougera plus, parce que si je bouge, je perds par rapport à la situation d'avant. D'accord ? Donc là, ce que je vous résume, en fait, c'est déjà 30 ans d'essais d'interprétation de la théorie des jeux, d'accord ? C'est-à-dire qu'il y a deux interprétations possibles. La première, c'est de se dire, tout ce que je viens de dire se passe dans la tête des joueurs. Ils se disent... D'accord, donc ça veut dire que si je joue P, l'autre va vouloir jouer F, donc à ce moment-là, moi je vais jouer ça, 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 etc. Et ce raisonnement va aboutir à une espèce de truc bizarre qui va être cet équilibre. Première interprétation, c'est celle qui prévalait au début, et c'est ce qui fait que les économistes n'étaient pas très intéressés par la théorie, parce qu'ils disaient, bah oui, il faut que les gens soient vraiment trop intelligents. Et c'est pour ça que les gens qui n'aiment pas les économistes aiment encore moins la théorie des jeux, parce qu'ils disent, oui, là, il faut vraiment que les gens soient tellement intelligents que ça ne veut plus rien dire. La deuxième interprétation, c'est de dire bah, les joueurs, ils apprennent simplement, et puis si un jour, à force de jouer, ils apprennent et ils convergent quelque part, ce sera vers un équilibre de Nash. Et donc, ce que je voudrais un petit peu illustrer ici, c'est que bah, ça se voit très très bien dans les jeux vidéo. D'accord ? Donc, revenons sur les principales prédictions de la théorie des jeux. Alors,
Donc ça veut dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, si moi je suis théoricien des jeux et vous me dites, bah voilà un jeu, qu'est-ce que vous prédisez sur ce qui va se passer? Je vous dis, alors déjà, s'il y a une stratégie dominante, c'est-à-dire quelque chose où je gagne à tous les, j'ai toujours intérêt à faire cette stratégie-là et pas une autre, les joueurs vont l'apprendre assez vite. D'accord? Ensuite, plus généralement, à force de jouer, ils vont arriver sur un équilibre, à mon avis. Et ensuite, bon, deux petits raffinements sur lesquels je vais passer parce que c'est pas très intéressant. D'accord. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que les jeux vidéo, c'est justement des exemples de jeux où c'est exactement l'endroit où le théoricien des jeux devrait se dire que là, ça devrait marcher. Pourquoi? Parce que les règles du jeu sont bien définies et bien comprises par tous, d'accord, en général. Ce qui est, alors que quand on applique la théorie des jeux dans la vraie vie, voilà, il n'y a pas de règles, même dans un jeu économique. Une exception d'ailleurs, c'est les jeux d'enchères, où là, bah, il y a un mécanisme qui est posé. On dit si vous enchérissez et que vous êtes le dernier à faire une offre, vous gagnez l'objet. Là, c'est très bien défini. Et c'est pour ça que les théoriciens des jeux aiment beaucoup les enchères, notamment. Mais les jeux vidéo, c'est encore mieux de ce point de vue. Ensuite, le même jeu est répété un grand nombre de fois. D'accord, on peut faire 50 000 parties de StarCraft. Voilà, c'est toujours les mêmes règles. Bon, les cartes changent, etc., mais c'est toujours les mêmes règles. Les joueurs jouent souvent avec des joueurs différents et qui ne connaissent pas. Ça, c'est important parce qu'il se pourrait que si vous jouez tout le temps avec le même joueur, vous commencez à vous dire oui, mais il a l'habitude de jouer comme ça, donc plutôt jouer comme ça et tout. Ça, c'est pas terrible. Il pourrait se passer des choses bizarres. Les joueurs ont envie de gagner. Ça, c'est très important. Si voilà, vous allez me dire tout de suite, il y a des joueurs qui ont envie de s'amuser, qui n'ont pas envie de gagner. Je dis bah d'accord, ça, c'est pas dans ma théorie. Moi, c'est pour des joueurs qui ont envie de gagner. Non, mais voilà, je suis conscient que j'essaie d'expliquer un petit bout de ce qui se passe et c'est pas forcément l'aspect le plus ludique des jeux, par exemple. Ensuite, les joueurs ne savent pas qu'ils sont observés par des économistes. Pourquoi je dis ça? Parce que y a une grande branche de l'économie qui se développe, qui s'appelle l'économie expérimentale, où on réunit les gens dans des pièces, enfin on les met sur des ordinateurs plutôt, on les fait jouer à des petits jeux très simplifiés et on regarde ce qui se passe. Et souvent, bah, on observe que les prédictions de la théorie des jeux, ça marche pas très bien à court terme et mieux à long terme. Le problème, c'est que bah, les gens savent qu'ils font partie d'une expérience. Là, si on observe ce qu'ils n'ont pas du tout l'impression, enfin, je pense pas que les joueurs se disent attention, il faut que je joue bien à StarCraft, parce qu'après, ça va être analysé par des économistes, il ne faut pas les décevoir. D'accord? Ensuite, il est possible plus ou moins d'identifier la manière dont les joueurs apprennent, c'est-à-dire qu'ils apprennent comment? Bah, il y a des forums de discussion dédiés, on peut voir les gens qui disent ah ouais, j'ai essayé telle stratégie, ça marche bien, etc. Voilà. Et on peut voir la fréquence de répétition des parties. Pourquoi ça m'a zoomé? Je veux pas que ça zoome. Un peu plus quand même. Bon, ok, on va laisser comme ça. Très bien. Alors, quel jeu choisir? Donc là, je prends voilà, un ensemble très restreint de jeux, parce que d'abord, il faut que ce soit des jeux que je connaisse. J'ai pas envie de parler de jeux que je connais pas. Et ensuite, parce qu'il faut que ce soit des jeux où, voilà, il est très clair qu'on est vraiment dans le cadre, enfin, autant que possible, de ce qu'on appelle un jeu, en théorie des jeux. D'accord? Donc déjà, j'aimerais bien qu'il soit multijoueur pour que ce soit entre humains. D'accord? Enfin, en fait, je vais beaucoup parler des jeux en solo au début, mais pour comparer, disons. Ensuite, je veux que ce soit un jeu de stratégie et pas un jeu d'adresse. Et bon, évidemment, c'est toujours mêlé. C'est-à-dire qu'un jeu de combat, c'est un jeu d'adresse, mais c'est aussi un jeu de stratégie. C'est vrai qu'on peut se dire, bah, je sais que si machin essaie de faire telle combinaison contre moi, il faut que moi je fasse telle combinaison, etc. Mais pour moi, voilà, c'est trop de l'adresse, ça ne me sera pas trop utile, d'accord? Je vais beaucoup me servir de StarCraft, on peut dire oui, mais StarCraft, il y a beaucoup d'adresses aussi, il faut faire par cœur les raccourcis, etc. Donc c'est sûr que ce n'est pas clair, mais je veux autant que possible que ce soit stratégique. Ensuite, les paiements sont clairement identifiés, je veux que les joueurs ils aient vraiment envie de gagner leur partie. Typiquement, civilisation, les joueurs ils ont peut-être envie de gagner, ils ont peut-être aussi envie de bâtir une grande civilisation, ils ont peut-être envie de gagner seulement en course spatiale et pas en domination, ils ont peut-être envie de faire je sais pas quoi, pour moi c'est pas assez clair donc j'oublie aussi. Il faut que les jeux soient très compétitifs, vous allez me dire oui mais j'étudie quoi finalement? Il faut que les jeux soient très compétitifs, voilà les jeux de rôle ça me plaît pas non plus. Il faut qu'il y ait un petit nombre de joueurs à chaque fois pour que ce soit bien identifiable, il faut qu'il n'y ait pas d'équipe et il faut que le jeu soit répété, d'accord? Donc, tout ça nous conduit à deux exemples, notamment les jeux de stratégie en temps réel. Enfin, ça peut être. Donc, ce que je vais étudier, c'est soit des jeux, c'est-à-dire les jeux de stratégie en temps réel, je trouve que ça correspond très très bien. Voilà. Donc, ce sera notamment StarCraft, mais ça s'applique à beaucoup d'autres. Et j'aime bien aussi les affrontements joueurs contre joueurs dans World of Warcraft, parce que c'est une espèce de mini-jeu dans le jeu, qui lui est très répété, qui est très concurrentiel, parce que voilà, on se bat en duel l'un contre l'autre, etc. Et donc, ça marche très bien. D'accord? Et peut-être que dans les jeux que j'ai exclus, bah, il y a des petits sous-ensembles qui correspondraient très bien à ce qui m'intéresse. Et cette présentation n'est pas subventionnée par Blizzard, évidemment. Très bien. Alors, d'abord, pardon si je n'annonce pas le plan, voilà. D'abord, je m'intéresse, donc j'ai dit l'équilibre, tout ça va être à la suite d'un apprentissage. Premier type d'apprentissage, c'est apprendre contre l'ordinateur, et ce que j'aimerais bien comparer après à quelle est la différence quand on apprend à jouer contre un humain. Alors, l'ordinateur, bon, c'est pas révolutionnaire, il utilise des grandes capacités de calcul, et c'est pour ça qu'il joue bien. Donc, typiquement aux échecs, l'ordinateur est très bon parce qu'il calcule beaucoup. Et bon, c'est un point de vue peut-être un peu personnel, mais il me semble que dans Civilization 2, Heroes of Might and Magic sont des jeux au tour par tour, avec des règles et des structures finalement suffisamment simples. L'ordinateur, si vous le réglez en mode difficile, il peut être très 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 bon. D'accord? Dans Civilization 2, c'est un peu délicat parce qu'il n'a pas exactement les mêmes règles que vous, mais dans Heroes of Might and Magic 2, par exemple, il joue exactement avec les mêmes règles. Et bon, je sais pas si vous connaissez ce jeu qui est un peu ancien, mais c'est au tour par tour, etc. Et si on le met en mode difficile, il est très très difficile à battre. Voilà. D'accord? Voilà, et donc ce que je veux dire, c'est qu'en temps ré... bah, dans les jeux plus récents qui sont en temps réel, bah, c'est beaucoup plus difficile de bien programmer une intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est plus du tout le même jeu. Les échecs, c'est un jeu, l'ordinateur peut dire, bon, au coup suivant, je fais ça, si lui il fait ça, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Il peut examiner toutes les possibilités. En temps réel, et qui plus est sur une carte continue, il va pas dire, oui, si il déplace ses chars en diagonale comme ça, en faisant telle boucle, à ce moment-là, j'ai intérêt à faire déplacer les miens comme ça. Ça, c'est pas possible, c'est pas fait. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, soit on programme l'IA en essayant de lui donner des trucs un peu plus simples, de dire si, je sais pas, s'il développe sa base avec telle vitesse, à ce moment-là, je fais ceci. Donc, essayer de simplifier un peu le jeu. Ou alors, ce qu'on fait beaucoup, c'est on utilise des routines. Donc, sur, je sais pas, sur la série des Command and Conquer, on peut faire des trucs du type. L'ordinateur développe toujours sa base comme ça, ou peut-être change entre plusieurs stratégies plus ou moins aléatoirement, mais il se développe toujours suivant un peu la même façon, il attaque de temps en temps, etc. D'accord? En revanche, pour les joueurs humains, donc ça c'est important, ça je fais référence à des travaux sur les échecs, où on a remarqué qu'aux échecs, en fait, les joueurs. Enfin, l'exemple le plus parlant. C'est on prend un échiquier avec des pièces qui sont distribuées voilà, comme dans une vraie partie à un moment, et on dit à des joueurs de retenir quelles sont les pièces sur l'échiquier. D'accord? Ensuite, on enlève tout et on leur dit bah, remettez les pièces comme elles étaient. Si on prend des joueurs d'échecs débutants, ils remettent à peu près n'importe comment. Si on prend des grands maîtres, ils remettent très 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 bien. D'accord? Enfin, plus exactement, ils remettent bien. La configuration générale, ça ils ont bien retenu, et ils se gourrent sur quelques détails. Et donc l'idée, apparemment, on peut montrer qu'on a ce concept de pattern recognition, c'est-à-dire que les joueurs humains sont capables de mettre ensemble des situations qui sont à peu près les mêmes, qui ressemblent, ils sont capables de simplifier ce qui se passe. D'accord? Et donc typiquement dans un jeu vidéo, dans un RTS, dans un Real Time Strategy Game, pardon, ils vont voir que entre deux parties qu'ils ont jouées, qui du point de vue d'un ordinateur n'ont rien à voir, il y avait de grandes similarités. D'accord? Ils vont être capables de simplifier un petit peu ce qui se passe. Donc, quel est le résultat de ce combat? Bah, à mon avis, aux échecs, bon, l'ordinateur, bon, c'est contesté, mais disons qu'il est quand même aussi bon que, il est meilleur que quasiment tous les humains. D'accord? Sauf quelques grands maîtres, peut-être. Dans les jeux vidéo, alors voilà, tout ça va dépendre de mon expérience personnelle, c'est un peu le problème de ce travail, certainement. J'ai plutôt l'impression d'un déclin des performances relatives de l'intelligence artificielle, au moins dans les jeux de stratégie. C'est-à-dire, comme j'ai dit, les jeux au tour par tour, ils étaient très bons. Les STR, bon, ça dépend, parfois ils peuvent être bons, mais souvent dans la première version du STR, ils sont assez mauvais. La série des Total War, dont je suis un grand fan, là c'est une catastrophe. S'il y en a qui connaissent le dernier qui est Empire Total War, on peut envahir l'ordinateur après 100 tours de jeu. Et on voit qu'il n'a rien fait depuis le début. Peut-être que le jeu est buggé aussi. Mais ce qui est important, à mon avis, c'est que ces jeux sont de plus en plus compliqués. Et c'est de plus en plus. Enfin, dans Empire Total War, le nombre d'options à chaque tour est considérable. Et c'est impossible que l'ordinateur arrive à optimiser là-dessus. Et même lui programmer un truc un peu routinier qui marche pas trop mal, c'est probablement extrêmement compliqué également. D'accord? Donc, ce que je veux dire, c'est que l'ordinateur devrait avoir de plus en plus de mal si les jeux sont de plus en plus compliqués sur plein de dimensions. D'accord? Donc, plusieurs pistes. Soit bah, on programme des routines. Moi, j'ai l'impression qu'on assiste à un retour du scriptage, c'est-à-dire que voilà, ceux qui ont joué à Warcraft 3 dans le mode solo, c'est pas du tout justement comme un alerte rouge où en fait, où en fait l'ordinateur joue vraiment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'événements qui sont prévus dès le départ, qui arrivent, des unités qui sont créées, etc. Tout ça, ça rend le jeu le plus difficile pour le joueur. Mais ça n'utilise pas les capacités de calcul de l'ordinateur. On a aussi le retour du rail, enfin le retour peut-être pas, mais on a du rail shooting aussi dans les FPS, donc Dead Space Extraction, c'est un jeu très récent. Et voilà, là c'est en fait on tire juste à l'écran et on avance tout seul. C'est-à-dire que les mouvements de tous les ennemis sont prévus dès le départ et ne répondent pas du tout à ce que fait le joueur. C'est comme un film, mais un petit peu interactif. Alors l'avenir, mais bon, ça a déjà été fait, je pense, c'est de programmer des IA qui sont capables d'apprendre au fur et à mesure qu'elles jouent contre des joueurs. D'accord, mais c'est difficile à faire. Autre piste intéressante, c'est on met à jour les routines de l'ordinateur. Donc ça, on sait que ça a été fait pour StarCraft, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les gens jouaient et que Blizzard observait ce que faisaient les gens dans les tournois, etc., ils ont programmé à nouveau l'ordinateur pour qu'il tienne, pour qu'il prenne en compte ces nouvelles stratégies. Donc j'ai quelques exemples si ça vous amuse après. Et tricher, entre guillemets, bah, c'est ce qu'on fait un peu dans Civilization, dans Total War, c'est-à-dire qu'il n'y a pas exactement les mêmes règles pour l'ordinateur. Dans Total War, par exemple, je ne sais pas, vous attaquez quelqu'un, et ben, comme par hasard, un pays à la con qui est tout petit par rapport à vous va vous attaquer dans le dos exactement au même moment. Trois tours après, il aura perdu, mais en attendant, ça vous a embêté, donc ça rend le jeu plus difficile. D'accord? Bon, l'alternative évidente, c'est de passer au multijoueur. Voilà, et donc ce que je veux dire, c'est que programmer une bonne IA est de plus en plus difficile, donc c'est de plus en plus intéressant de passer au multijoueur pour améliorer l'expérience de jeu du joueur et pour améliorer la longévité. Mais comme on le verra, faire un bon multijoueur, ça requiert de faire un jeu assez complexe parce que sinon, généralement, au bout d'un moment, c'est plus rigolo et ça rend la programmation de l'IA encore plus difficile. Donc, qu'est-ce qui se passe de différent quand on joue entre humains? Alors, quand on joue entre humains, ce qui se passe de différent, c'est que c'est de la théorie des jeux. Ça déjà, ça m'intéresse. Donc l'exemple de StarCraft, donc apparemment StarCraft au tout début, donc la première version 1.00, assez vite en multijoueur, les gens ont tous, enfin les joueurs, alors je parle ici de joueurs vraiment qui jouent en tournoi, enfin peut-être pas en tournoi, mais qui jouent de manière régulière sur Battle.net, qui jouent très souvent, qui ont très envie de gagner, etc. Donc des joueurs sérieux entre guillemets. Ils ont assez vite convergé vers une stratégie donc de rush, c'est-à-dire on prenait en l'occurrence les ergs, tout le monde faisait à peu près le même schéma de développement, attaquait à peu près au même moment, et les parties se ressemblaient toutes. D'accord? Du point de vue de la théorie des jeux, dans son interprétation ancienne, c'est-à-dire que les joueurs réfléchissent comme ça, etc., c'est très surprenant parce que le jeu est extrêmement complexe. Si on voulait le représenter sous forme de matrice comme ça, ce serait un truc énorme. Et d'ailleurs, ce ne serait pas une matrice parce qu'il y aurait le temps qui viendrait, etc. Donc, un théoricien des jeux des années 50 aurait dit: bah non, là les joueurs ils arriveront jamais à converger vers un équilibre, ça n'a pas de sens d'appliquer la théorie des jeux. Dans l'approche contemporaine, on dit: bah non, les joueurs ils apprennent, même si le jeu est très compliqué, peut-être qu'au bout d'un moment ils vont réussir à converger, enfin ils vont tout le temps modifier leur stratégie, peut-être même bêtement, peut-être qu'au bout d'un moment ça va aboutir à un truc stable. Et peut-être que les gens ne comprendront pas du tout pourquoi ils jouent ça, mais ils sauront juste que s'ils jouent autrement, ils perdront. D'accord? Donc, c'est un équilibre. Donc je voudrais illustrer un petit peu ça. Donc ça c'est très très simplifié, d'accord? Donc mettons que vous ayez juste deux stratégies à StarCraft, c'est soit vous faites un rush, c'est-à-dire que vous attaquez tout de suite dès que vous pouvez quasiment, soit vous essayez d'abord de développer vos ressources économiques afin de construire plus de soldats plus tard et donc d'avoir une stratégie plus longue, d'accord? Donc l'idée c'est simplement, bah, qu'est-ce qui se passe? Si tous les deux on choisit d'attaquer tout de suite, bah, on aura à peu près les mêmes soldats. Ça va dépendre de notre habileté, etc. On aura à peu près chacun une chance sur deux de gagner. D'accord? Ça, c'est parce que je ne veux pas rentrer dans Game of Skill, etc. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bah, si moi, j'adopte une stratégie plus longue de développement et que l'autre m'attaque tout de suite, d'accord? Bah, il va m'attaquer avec tous ses soldats. Moi, j'aurais fait plutôt des trucs économiques et tout. Je ne pourrais pas me défendre, donc je perds. Donc moi, j'ai 0 et lui, il a 1. D'accord? Inversement, si moi, j'attaque tout de suite et que l'autre s'y est pas préparé, c'est moi qui gagne, et si tous les deux on attaque tard, ben on a à peu près une chance sur deux de gagner. D'accord? Donc on vérifie assez facilement que le seul équilibre de nage de ce jeu, c'est ça. D'accord? C'est que tous les deux on fait un rush. D'accord? Et donc là on va me dire: oui, mais ça suppose que les joueurs sont intelligents, etc. Donc en fait, voilà, ça j'ai représenté qu'est-ce qui se passe si les joueurs sont complètement crétins. D'accord? Donc les joueurs sont crétins au sens que au début, alors la courbe bleue par exemple. Au début, il y a 10% des joueurs qui font des rushs, d'accord, et 90% des joueurs qui font une stratégie longue parce qu'ils aiment bien ça. Ensuite, À chaque période, tout le monde joue un peu au hasard ensemble. Après, les gens, par exemple, discutent sur des forums et les gens changent leur stratégie en fonction de ce qui a le mieux marché par le passé. D'accord? C'est-à-dire que si je vois sur un forum qu'il y a plein de gens qui disent qu'ils ont envoyé un rush et que ça a marché, je vais peut-être pas faire un rush moi-même, mais ça augmente la probabilité que je fasse un rush. C'est tout ce que je demande. Tout ce que je dis, c'est que les joueurs sont potentiellement idiots, ils apprennent pas d'une manière très intelligente, mais l'évolution de leur stratégie est un petit peu biaisée au moins vers des stratégies qui marchent mieux. D'accord? Et qu'est-ce qu'on observe? Bah que plus donc, tout ça c'est en spécifiant un petit peu mieux les lois, ce que je viens de dire en français. Mais bah, au bout d'un moment, donc ça c'est la proportion de gens qui utilisent une stratégie de rush, bah, au fur et à mesure que le temps passe, hop, on converge vers tout le monde utilise du rush. D'accord? Simplement parce que bah, là, les quelques joueurs qui avaient utilisé une stratégie de rush disent sur les forums, ah bah moi j'ai gagné et tout, et on se dit, ah bah tiens, s'ils ont gagné, c'est peut-être pas idiot, donc je vais le faire aussi. Donc ça augmente un peu, et au fur et à mesure que ça augmente, c'est de plus en plus intéressant d'ailleurs pour les autres de faire une stratégie de rush. D'accord? Si au départ ils étaient distribués 50-50, bah, on converge un peu plus vite comme ça. Et si au départ quasiment tout le monde utilisait déjà du rush, bah, on, très vite les quelques résistants qui voulaient faire des parties longues disparaissent. D'accord? Et en gros, c'est ce qu'on a observé avec StarCraft, semble-t-il. D'accord? Donc voilà, donc ça j'espère vous convaincre que ça veut dire que même des joueurs idiots peuvent converger vers un équilibre du jeu s'il y en a un. D'accord? Et comme on le verra par la suite, c'est assez embêtant. Bon, par ailleurs, les joueurs n'apprennent pas tout, hein, c'est pas ce que je veux dire. Bon, je vais peut-être passer ça, c'est pas le plus intéressant, mais notamment dans World of Warcraft, vous savez peut-être qu'il y a un vrai marché où les joueurs font des transactions un peu comme sur eBay, etc. Et là, il y a plein de trucs très bizarres. C'est-à-dire qu'il y a vraiment moyen de faire beaucoup d'argent virtuel dans le jeu, et les joueurs le font pas. Enfin, il n'y a pas assez de joueurs qui le font pour que cette opportunité disparaisse, et c'est assez surprenant. Et mon idée, c'est que c'est parce que là, c'est pas purement compétitif. C'est-à-dire que c'est bien de gagner plus de sous dans World of Warcraft, mais il n'y a pas. Être le plus riche du jeu n'apporte pas quelque chose de particulier. Tandis que dans StarCraft, même si votre stratégie est un tout petit peu meilleure que l'autre, bah vous gagnez un alors que sinon vous perdez. D'accord? Et donc ça, c'est très différent. Ensuite, changer les règles du jeu. Bah pourquoi? Parce que bah dans StarCraft, voilà, à partir du moment où tout le monde fait la même stratégie, où toutes les parties sont les mêmes et où en plus elles durent toutes 5 minutes, c'est plus très intéressant. Donc il faut changer les règles. Et ça a déjà été fait en fait. C'est-à-dire que StarCraft, bah, du coup, en fait, Blizzard, ils font quoi? Périodiquement, ils changent un tout petit peu, un petit quelque chose. D'accord? Ils vont augmenter un petit peu le coût d'une unité ou d'une structure de manière à casser des équilibres qu'ils pensent voir apparaître. Donc le jeu reste rigolo et dynamique. Donc ensuite, Borel, donc c'est pas un jeu, c'est le mathématicien dont je parlais tout à l'heure, lui disait, bah, le problème c'est qu'un jeu, quand vous l'avez résolu, bah, plus personne n'y joue parce que c'est plus marrant, parce que c'est plus la peine de jouer. Alors on peut discuter, je veux dire, il y a des gens qui jouent au bilboquet, alors que d'un certain point de vue, c'est pas très...
Encore des gens qui jouent au bilboquet.
Il paraît, oui. Ou voilà, d'un autre exemple historique, c'est le jeu du Nîmes, bah, maintenant on sait exactement comment il faut jouer, que le premier joueur peut gagner à tous les coups. Il y a encore quelques personnes qui y jouent peut-être de temps en temps, mais ça n'est plus du tout aussi populaire que ça l'était avant. Un autre exemple intéressant, c'est celui des échecs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent que les échecs, bah, Karpov par exemple, dit que les échecs, le problème, c'est qu'entre deux joueurs suffisamment bons, enfin si on est suffisamment bon, on arrive toujours à assurer au moins un nul, sauf si on est très fatigué. Donc après, c'est plus tellement une question de stratégie, c'est une question, bah, quand on a fait je ne sais pas combien de parties, de tournois, pardon.
Ça veut pas dire qu'ils ne s'amusent pas en jouant à Minecraft.
Ah, ça ne veut pas dire qu'ils... Je suis d'accord, ça ne veut pas du tout dire qu'ils s'amusent pas, c'est peut-être un peu différent. En même temps, je pense que si on arrive à un degré tel que tous les grands joueurs de poker font nul absolument à chaque coup et que donc il n'y a plus de tournoi de poker entre, de poker, d'échecs entre grands maîtres, les échecs disparaîtront pas, ne serait-ce que parce que tous les joueurs ne sont pas aussi bons. Mais ça aura plus exactement, ça suscitera peut-être plus exactement le même engouement non plus. D'accord? Eux-mêmes, ils disent que bah, ça, c'est le genre de duel 40 minutes sur 48 parties qui fait que les gens sont un petit peu lassés des duels entre grands maîtres aussi. D'accord? Je dis pas que ça fait que le jeu, après, n'a plus aucun intérêt et que personne n'y joue. Je pense que ça le rend moins attractif pour au moins une certaine catégorie de joueurs. D'accord? Bientôt, le poker, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, en fait, c'est assez rigolo d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui utilisent. Exactement ce que j'ai fait là, c'est-à-dire qu'ils prennent un programme informatique de poker, ils le font jouer contre un autre programme informatique de poker, d'accord, et ils font en sorte que les deux apprennent en disant, en jouant un peu plus souvent les stratégies qui ont mieux marché par le passé. D'accord? Et ils font tourner leurs ordinateurs qui jouent l'un contre l'autre des parties de poker des millions de fois. Et donc j'ai vu un article où le type disait qu'il avait trouvé une stratégie qui battait tous les autres programmes qui avaient été faits avant. Bon, peut-être qu'il raconte n'importe quoi, mais c'était présenté à une conférence de maths, donc je pense que ça va. Et voilà, et apparemment les spécialistes pensent que dans 10 ans le jeu de poker sera résolu. D'accord ? Et peut-être ça disparaîtra pas, ça empêchera pas les parties de poker.
Résolu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour toutes les mains, on saura ce qu'il faut faire.
Voilà, d'accord. Pour toutes les mains, ouais, exactement. Exactement. Et donc, par exemple, le poker sur Internet, peut-être que dans 10 ans, il sera possible d'avoir un petit logiciel sur ton ordinateur qui dira « Ah, t'as ça comme main, tiens, joue ça. » Et voilà, je dis pas que le poker va disparaître, mais c'est-à-dire que quelqu'un qui refuserait de jouer comme ça, il faut qu'il s'attende à perdre de l'argent à chaque partie. D'accord ? Et peut-être que ça vaut le coup pour lui. Peut-être qu'il y a des gens qui le feront. Ce que je veux dire, c'est que ça diminuera probablement le nombre de joueurs parce qu'une certaine catégorie de joueurs ne refuseront ça. C'est tout ce que je veux dire. D'accord ? Pardon ?
Au Blackjack, ça a été résolu. Ils ont trouvé des moyens en rajoutant un autre paquet de cartes en dessous, en mixant plusieurs paquets de cartes.
Tout à fait. Donc, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on peut sauver un jeu. Ouais. Et ça a été proposé pour les échecs. C'est-à-dire que, pour les échecs, on a les échecs Fischer, qui sont des échecs aléatoires, et on a les échecs Capablanca, qui sont des échecs où on change un petit peu le début. Et ce qui est amusant, c'est que Fischer, il disait, le problème, c'est qu'aux échecs, les gens, ils apprennent par cœur des milliers d'ouvertures, enfin des milliers, peut-être pas, des centaines d'ouvertures. Et pour empêcher ça, il faut que ce soit aléatoire au début pour que les gens puissent pas, pour qu'il n'y ait pas d'apprentissage. Et ce qui est marrant, c'est que ce qu'il dit, c'est exactement ce que dit la théorie des jeux dans cette version apprentissage. Il dit qu'il faut casser l'apprentissage, et pour ça, il suffit de casser. D'accord. Et c'est ce qui a été fait dans StarCraft aussi, donc comme je l'ai dit, en changeant un petit peu à la marge certains petits ajustements qui fait qu'une stratégie qui avant était battue par la stratégie qu'employait tout le monde devient gagnante. D'accord. Entre les différentes versions de Civilization, alors là je suis moins expert, mais c'est ce qui a été fait apparemment, c'est dans Civilization 2, il y avait une stratégie qui s'appelait Smallpox, qui constituait à faire plein de petites villes partout, et en multijoueur c'était infernal parce qu'on pouvait jamais être envahi, et dans Civilization 4 c'est plus possible à cause de ce concept de culture, etc.
Surtout on peut plus coller les villes en fait.
D'accord. Mais souvenir de Civilization 2, c'est un peu ancien pour nous. D'accord, donc et mettons que voilà qu'on mette à jour les jeux comme ça. Vers quoi on se dirige au bout d'un moment ? C'est-à-dire que voilà, il y a un jeu, hop, les gens apprennent la stratégie pure, ils jouent tous la même chose, on change les règles du jeu, les gens réapprennent, ils reconvergent vers un truc où tout le monde joue la même chose, on rechange les règles du jeu, ça va vers où ? Ça peut faire plusieurs choses en fait, en théorie. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir pas d'équilibre, c'est-à-dire des jeux où il n'y a jamais une stratégie qui gagne et tout, et où les joueurs jouent toujours des trucs différents. Le problème, c'est que souvent les jeux où il n'y a pas d'équilibre, ça n'existe pas, mais c'est possible. Un équilibre vers lequel les joueurs n'arrivent pas à converger, typiquement les échecs, au moins pendant longtemps, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un équilibre aux échecs, on sait que c'est soit le joueur blanc, soit le joueur noir qui gagne, soit il n'y a forcément pas, on sait qu'il y a une manière optimale de jouer. C'est juste que c'est tellement difficile à apprendre que ça fait des milliers d'années qu'on essaye et on n'y arrive pas. Quoi. Et donc voilà, on peut très bien imaginer que les jeux vidéo convergent vers ça. Ça peut être un cycle aussi, ça peut être plein de choses amusantes. Et l'autre truc intéressant, c'est les équilibres mixtes. C'est-à-dire que l'un des jeux les plus ludiques, c'est le jeu de papier caillou-ciseaux que j'ai représenté là, d'accord ? Donc si on a papier tous les deux, ça fait 0. Si j'ai papier et que l'autre a caillou, j'ai 1 parce que je gagne, lui il a moins 1 parce qu'il a perdu, etc. Pourquoi ça c'est ludique ? Parce qu'il n'y a aucune stratégie avec laquelle on est sûr de gagner, d'accord ? Si je fais caillou, c'est bien si l'autre fait ciseaux, sinon c'est pas bien et c'est pareil pour toutes les stratégies. Donc en gros, bon alors il paraît que ce que je dis c'est pas vrai, c'est-à-dire que dans les tournois, en fait du coup ce qui compte, il y a des tournois et ce qui compte c'est quand on voit que l'autre fait le mouvement, d'essayer en même temps qu'on le fait soi-même de deviner ce qu'il va faire. Donc tout se fait, en fait c'est un pur jeu d'adresse, d'accord. Mais sur l'élément stratégique, en principe il n'y a aucune stratégie qui gagne, et donc qu'est-ce qu'on peut faire de mieux là-dedans? C'est jouer ça avec probabilité 1 tiers, ça avec probabilité 1 tiers, ça avec probabilité 1 tiers. D'accord. Je ne fais pas la démonstration, mais c'est ce qu'on peut faire de mieux. D'accord. Ça paraît peut-être assez intuitif. D'accord. Et donc on peut se dire, peut-être un jeu vidéo, on aimerait bien arriver à faire ça, c'est-à-dire que, je ne sais pas, dans StarCraft, il y a peut-être une vingaine de stratégies qui sont très bien. Il y en a à chaque fois, il y a une stratégie qui en bat une autre et tout, donc il n'y en a aucune qui vraiment domine toutes les autres. Et donc les joueurs, à chaque fois, choisiraient un peu au hasard entre ces différentes stratégies.
Je t'interromps, mais il me semble que justement, dans les jeux type Rise of Nations ou même Warcraft, je crois, enfin StarCraft, quand ils composent des armées, c'est ce qu'ils font.
C'est ce que j'allais dire, c'est exactement ça. C'est-à-dire que justement, c'est un principe qui met exactement en raison de cet argument, qui est déjà appliqué aux unités. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que chaque unité soit en bien contre une autre unité, etc. Mais c'est exactement pour cette raison, d'accord ? Et ils s'en cachent pas. Le problème, c'est que il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'après, il y a la composition de l'armée, et ensuite, il y a l'arbitrage entre avoir des ressources pour avoir une armée plus tard ou attaquer tout de suite avec une armée plus faible. D'accord ? Et ça, c'est ce problème qu'ils ont eu dans StarCraft. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement du papier caillou-ciseau dans la composition de l'armée qu'on envoyait, mais il y avait une stratégie dominante sur le moment auquel on choisissait de l'envoyer. D'accord ? Très bien. Alors, du coup, donc voilà, mon idée, c'est que la théorie des jeux, ça permet de dire des petites choses très simples sur comment est-ce qu'on pourrait faire pour éliminer ces équilibres où tout le monde joue tout le temps la même chose et où c'est pas très rigolo. D'accord ? Ah, peut-être c'est rigolo pour certains joueurs, etc. Disons qu'il y a des joueurs pour qui c'est pas rigolo. D'accord ? Donc ce que j'ai fait, c'est un petit modèle de théorie des jeux, mathématiques, etc. Sur lequel je ne vais pas du tout insister parce que je ne pense pas que ce soit vraiment ce qui vous excite. Mais l'idée, c'est qu'est-ce que je mets dans ce modèle ? Je dis en gros, il faut décider à quel moment on attaque. Et quel moment on attaque, c'est en gros combien de soldats on va avoir. D'accord ? Après, si on a S1 soldat et que l'autre a S2 soldat, et ben la taille relative de mon armée par rapport à celle de l'autre, c'est S1 sur S1 plus S2, et la probabilité que je gagne, c'est une certaine fonction F, d'accord, qui peut soit favoriser soit l'attaquant, soit le défenseur, par exemple. Et je prends aussi en compte la taille de la carte, que j'appelle grand T, le temps duquel on découvre une attaque, et je veux juste illustrer deux petites choses, d'accord, peut-être un peu plus que deux d'ailleurs. D'accord, donc en fait, on peut démontrer, c'est un modèle très simplifié, d'accord, que par exemple, si l'attaque est suffisamment favorisée et que T, donc la taille de la carte, est trop faible, eh bien, il y a un équilibre où les deux joueurs s'attaquent dès le début du jeu. D'accord ? En fait, c'est pas très surprenant, c'est-à-dire que vous savez que si vous attaquez comme vous êtes favorisé et que l'autre a exactement la même armée que vous, vous gagnez. Et comme la taille de la carte est faible, ça pourquoi c'est important ? Parce que si la taille de la carte est forte, je décide d'attaquer, l'autre le voit et se dit « Ah bah très bien, je vais construire plein d'unités, le temps que j'arrive, il a une armée plus puissante que la mienne. » Donc voilà, donc ça c'est, enfin, comme souvent la théorie des jeux, les prédictions sont plutôt assez intuitives. Ensuite, pour epsilon suffisamment petit, donc epsilon suffisamment petit, ça veut dire que si l'autre commence une attaque, je la prends très vite. Donc à quoi je pense ? Au truc genre brouillard de guerre, est-ce qu'il y a une possibilité d'espionner la base de l'adversaire à un certain coup, des choses comme ça. Donc en gros, si on a cette information très vite et que T, donc la taille de la carte, est suffisamment grande et qu'en plus il y a un avantage à la défense. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai énormément intérêt à défendre. Mais si les deux joueurs ont énormément intérêt à défendre, personne ne va jamais gagner. Personne ne va jamais attaquer. Si personne n'attaque jamais, le jeu se finit jamais, et c'est pas très intéressant non plus. D'accord ? Donc si les joueurs sont infiniment patients, ils vont attendre tout le temps que l'autre attaque, et voilà. Si au bout d'un moment ils en ont marre, en gros ils vont accumuler des unités au maximum et entrent dans une guerre d'usure, donc ça c'est un terme de théorie des jeux, enfin c'est qui est récupéré par la théorie des jeux, c'est-à-dire qu'à chaque période ils vont avoir une certaine probabilité de décider d'attaquer. D'accord ? Ensuite, et donc ça, entre parenthèses, ça montre que c'est important que le nombre d'unités soit limité, comme c'est le cas dans StarCraft et dans Warcraft 3. Alors que c'est toujours limité par les capacités de la machine, mais dans Cossax par exemple, je crois qu'on pouvait afficher 36 000 unités en même temps, donc d'ici à ce qu'on arrive à 36 000 unités, ça prenait un certain temps. Et effectivement, apparemment, il y avait des cas de parties où les gens accumulaient, et en fait, vous n'avez plus jamais attaqué. D'accord. Donc c'est ce que je dis là. Si mon unité n'est pas limitée, il se peut que les joueurs, même s'ils sont impatients et qu'ils ont envie d'en finir, n'attaquent jamais. Ensuite, et aussi ce qui est important, c'est que si la défense est favorisée, il n'y a pas d'équilibre en stratégie pure. Et donc les équilibres en stratégie pure, c'est ce que je disais, c'est-à-dire des équilibres où les joueurs, où toutes les parties sont exactement les mêmes. D'accord ? Et un moyen simple d'éviter ça, c'est de favoriser la défense. Or, je ne sais pas quelle est votre impression, mais j'ai l'impression que dans les jeux de stratégie, souvent on favorise la défense. Je ne dis pas que chez Blizzard, ils ont fait le même modèle que moi et qu'ils se sont dit « Ah ouais, tiens, ça c'est pas mal et tout, on va favoriser la défense, comme ça on est tranquille et tout. » Non, ce que j'ai en tête, c'est plutôt que dans tous les jeux de stratégie, ils se copient un peu les uns les autres et ils voient un peu les jeux, ce qui se passe, ils disent « Bon, le jeu des développeurs d'à côté, c'est pas mal, mais est-ce que telle caractéristique, c'est pas un peu embêtant parce que ça donne pas... » Oui. Est-ce que ça donne pas aux joueurs l'incitation à attaquer trop tôt ou au contraire à ne jamais attaquer, est-ce qu'il faut pas rééquilibrer un peu et après le jeu lui-même il le change, etc. Donc, ce que j'ai en tête c'est un processus de tâtonnement un petit peu, d'accord. Donc voilà, ça c'est les petites conclusions d'un modèle très simple. Comme j'ai dit, il est difficile de trouver le bon compromis ex ante, c'est-à-dire que on a du tâtonnement et on peut mettre en évidence que bah, quelques caractéristiques qu'à mon avis on retrouve dans beaucoup de jeux de stratégie, en fait on peut comprendre pourquoi elles sont importantes grâce à la théorie des jeux en fait. D'accord ? Donc l'avantage à l'attaque ou à la défense, on voit sur quoi ça peut jouer, la vitesse de production des unités, dont là je n'ai pas parlé parce que c'est un peu plus compliqué, mais on peut montrer comment ça joue aussi, la limitation du nombre d'unités, la taille de la carte, donc la distance entre les deux temps, entre les deux camps, pardon, et la vitesse à laquelle on apprend l'attaque de l'adversaire. Donc, tout ça, on retrouve des choses, parce que c'est surprenant à la base, on peut se dire bah, comment ça se fait que dans tous les jeux, quasiment, on est du brouillard de guerre. Pourquoi est-ce qu'on le remet à chaque fois? Est-ce que c'est juste les joueurs aiment ça ou pas? Moi, ce que je dis, une interprétation possible, c'est qu'on s'est rendu compte que des jeux où il n'y en avait pas, ça pouvait poser un certain nombre de problèmes en termes de vers quoi aboutissaient les jeux. Petite conclusion, et ben voilà, donc j'espère, je sais pas si ça se trouve que j'ai parlé une heure, j'en sais rien. Donc le comportement des joueurs dans certains jeux en ligne semble valider la deuxième approche de la théorie des jeux, d'accord, donc moi en tant que théoricien des jeux je suis content. La convergence vers des comportements rationnels aboutit plus ou moins selon les cas, bon les hypothèses expliquant les différences je les ai pas trop présentées, mais je pense que ce qui est vraiment important c'est que voilà, StarCraft c'est un exemple où les joueurs sont en duel, ils veulent gagner, ils ont un classement. Et être un tout petit peu meilleur que l'autre, améliorer un tout petit peu ce qu'on fait, c'est extrêmement important. D'accord ? Et j'ai pas parlé des duels dans World of Warcraft, mais c'est exactement la même chose. Si on est un tout petit peu meilleur que l'autre, on gagne. Donc on optimise autant qu'on peut. Ce qui n'est pas le cas forcément dans tous les jeux, ni dans toutes les interactions qu'on peut avoir dans un jeu. Ensuite, étant donné que la théorie des jeux arrive à prédire un petit peu ce qui se passe, et ben inversement, elle peut servir un peu au game design. D'accord ? Et c'est amusant parce que justement, il y a une semaine, des chercheurs dont moi, on a été contactés pour aider au game design d'un jeu. D'accord ? Voilà. Et enfin, oui, et la façon dont les éditeurs réagissent à l'apprentissage des joueurs, c'est-à-dire cette façon de changer tout le temps les jeux. Déjà, je trouve ça très intéressant parce que c'est une particularité des jeux vidéo. Enfin, on va me dire, non, c'est pas une particularité des jeux vidéo, on peut changer les règles dans des jeux de société, etc., bien sûr. Mais là, ce qui est amusant, c'est que c'est l'éditeur qui change lui-même les règles du jeu. C'est-à-dire qu'un jeu vidéo, c'est plus, il est de moins en moins fini quand il sort en CD. Quoi. Après, il y a de plus en plus un support derrière, il évolue pendant même des années, etc. Des jeux qui existent depuis 10 ans, il y a toujours un suivi. Et je trouve que ça soulève des parallèles intéressants, parce que, par exemple, pour tout ce qui est, régulation de la concurrence, que fait une autorité de la concurrence ? Elle essaye de changer un petit peu les interactions entre les agents, donc entre les entreprises, de manière à les pousser à adopter des comportements assez concurrentiels. D'accord ? Assez vite, les entreprises apprennent un peu ce qui est optimal de faire dans ce cadre-là et tout, et peut-être elles apprennent à contourner complètement la régulation, et il faut que le régulateur échange les règles, etc. Et ce qui est marrant, c'est que là, on essaye de faire l'inverse, c'est-à-dire que dans les applications économiques, l'idée, c'est plutôt qu'on veut aboutir à un équilibre en stratégie pure qui soit très stable, où les gens fassent ce qui est bien pour la société. Et là, c'est l'inverse. On essaye de changer les règles du jeu pour que ce soit de plus en plus instable et que ce soit de plus en plus aléatoire. Ça, c'est un point de vue. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère que c'était assez clair, que vous ne m'avez pas interrompu.
Très bien.
Juste, du coup, là, je rebondis tout de suite. Mm-hmm. Si je comprends bien, c'est pas juste qu'il faut changer les règles, c'est qu'il faut introduire une ou plusieurs variables aléatoires ou changer de façon aléatoire les règles.
Non, même pas forcément. Non, et par exemple, ce qu'ils ont fait dans StarCraft, c'est qu'ils ont dit tel machin. En plus, c'est des changements qui sont généralement tout petits, ce qui montre que les joueurs sont très fins. C'est-à-dire qu'ils ont dit, Donc, c'est une stratégie. Le rush, c'était au départ une stratégie avec les zergs, donc qui se développent très rapidement et qui grouillent partout, là. Et ils avaient un bâtiment pour améliorer je sais plus quoi, qui coûtait 150 cristaux. Et ils ont changé, et c'est passé à. Non, pardon, qui coûtait par exemple 120 cristaux, et c'est passé à 150. Du fait que c'était passé à 150, on pouvait le construire que 20 secondes plus tard dans la partie, et ces 20 secondes faisaient qu'une autre faction pouvait les battre en se développant elle, et donc ça a fait disparaître cet équilibre. On pourrait aussi effectivement introduire de l'aléa dans les jeux, mais à mon avis dans les STR il y en a déjà pas mal de l'aléa, parce qu'en fait, une fois que les troupes s'affrontent, etc., il y a la micro-gestion du joueur qui joue, mais il y a aussi quand même un peu d'aléa selon le pathfinding des unités, etc. Mais l'idée de Fischer, par exemple, pour les échecs, c'est de rajouter de l'aléa au début pour empêcher les gens d'apprendre. C'est aussi une piste, d'ailleurs.
Est-ce que justement, si on empêche les gens d'apprendre, on tue pas une partie du plaisir ?
Ça, je suis assez d'accord. C'est possible aussi. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'on le fait pas de manière totalement... on le fait de temps en temps, quoi.
C'est pour ça qu'on le fait aussi sur des petites marges, hein.
Bah, probablement, c'est-à-dire j'ai l'impression, enfin, quand on regarde un peu des forums où les gens discutent, on a vraiment l'impression qu'il y a des gens dont, voilà, qui prennent vraiment plaisir, bah, dans World of Warcraft par exemple, à calculer exactement en reprenant les algorithmes du jeu, que va valoir telle stratégie, etc. Et oui, clairement, ça fait partie du plaisir qui tire du jeu, donc au moins pour une certaine catégorie de joueurs, c'est important. Donc c'est sûr, je pense qu'un éditeur qui s'amuserait à changer les règles tout le temps, à faire un truc incompréhensible, il serait assez mal barré, au moins pour une certaine catégorie de joueurs.
Il y a même des querelles de chiffres. Ça limite l'économie. On n'est pas d'accord sur les bons indicateurs dans le theory crafting sur World of Warcraft.
Ah oui,
une
oui,
partie
oui.
des joueurs conteste les chiffres officiels.
Bah moi, je conteste même... ce que j'ai pas soulevé ici, c'est qu'à mon avis, il est également possible que des joueurs... Enfin, d'ailleurs, la théorie des jeux le prédit aussi. Que des joueurs convergent vers des stratégies qui en fait ne sont pas des équilibres ou qu'on pourrait battre. Et par exemple dans World of Warcraft, il y a, enfin parce que j'y joue pas mal, et il y a une espèce de légende comme quoi il faudrait privilégier, je sais pas ceux qui connaissent ici, mais comme quoi si on est un DPS magique, il faudrait privilégier les dégâts et le score de pénétration sur le score de coup critique. D'accord. Et à mon avis, ça vient d'une erreur mathématique, simplement. C'est-à-dire qu'ils font ça en prenant les formules de maths du jeu, et en gros, ils font de l'optimisation locale au lieu de faire de l'optimisation globale. Enfin, juste, mathématiquement, c'est pas vrai. Et tous les joueurs font ça quand même. Donc peut-être un jour, on va s'en rendre compte. Mais peut-être pas. Voilà.
Mais est-ce que ça marche, au final? Si le joueur le font, ça veut dire que quelque part, il pense que ça marche.
Il pense que ça marche parce que là, c'est plutôt pour le PVE, c'est-à-dire contre l'ordinateur. Ouais. Donc même une stratégie qui n'est pas optimale contre l'ordinateur, ça peut marcher si elle est suffisamment bonne. Si c'est contre un autre joueur, ce que je prédis, c'est que... Enfin, le problème, c'est que justement, ça, c'est pour un problème qui, contre les autres joueurs, est peut-être moins important. Mais si c'était contre un autre joueur et si c'était important... Je pense que voilà, un jour il y aurait un autre joueur qui aurait un truc complètement différent, on s'apercevrait, tiens, mais lui il gagne souvent, comment il fait, et tout, et voilà, et au bout d'un moment ça suffirait à casser cet équilibre.
Ouais.
Mais là ça prend du temps, je dis rien sur le temps que ça prend, peut-être
ouais,
ça prend des années.
Mais sauf que si c'est vraiment une stratégie dominante entre les joueurs, en fait c'est des joueurs qui ont la même stratégie, donc ils peuvent pas voir si ça marche. Enfin,
bah, c'est pour ça que justement dans World of Warcraft, c'est dans World of Warcraft justement ils changent, mais quand on suit les mises à jour ils changent tout le temps quoi.
Oui, c'est-à-dire que tous les mois
on fait des petits ajustements et c'est quand on dit ah tiens mais cette classe là elle gagne vraiment tout le temps, est-ce que tout le monde va pas se mettre à jouer cette classe là et tout, donc on change. Et ce qui fait que bah voilà, si c'est à peu près équilibré, ça veut dire que n'importe quelle classe peut battre une autre classe et tout, donc déjà ça introduit des stratégies, ce que j'appelle les stratégies mixtes.
Sur les stratégies de rush, je me demande si elles s'expliquent uniquement par la convergence là. Parce qu'il y a aussi peut-être autre chose, peut-être ça rentre dans la théorie, j'en sais rien, mais il y a aussi le fait sur des stratégies de rush de prendre la main.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que tu as aussi un truc cognitif, c'est-à-dire que tu réduis en rushant la masse des possibles.
Ah oui,
c'est
aussi
une situation de facilité.
On a plus de contrôle.
Voilà.
Mais ouais,
parce que tu réduis l'univers du jeu à ton avantage.
Ouais, mais si c'est à mon avantage, au sens où ça me donne plus de chances de gagner, c'est dans le cadre de ce que je dis. Ce qui est, c'est que j'ai pas énormément, en plus je vous ai pas présenté le modèle mathématique, etc. Mais je dis juste, voilà, il y a quelques petits éléments, ça peut suffire à expliquer ce qu'on observe assez simplement. Peut-être qu'il y en a plein d'autres qui vont dans le même sens, il y en a probablement qui vont dans un autre sens. D'accord. C'est pas du tout, je préjuge pas du tout ça.
Après, pour rebondir sur MMO, il y en a un qui est très intéressant au niveau du joueur contre joueur, c'est Guild Wars, parce que justement, il n'a pas le même système de PvP.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'il a des sorts différents pour chaque classe, et chaque extension en rajoute 200, 300, enfin, je ne sais pas, il y en a 1000 et des poussières. Alors que World of Warcraft ajuste à chaque fois et crée des ajustements. Et Guild Wars, en fait, crée de la diversité et essaye de. Après, par des mises à jour, essaye de donner un équilibre à cette diversité et de donner plus de possibilités aux joueurs.
Bah alors ça c'est intéressant parce que bah justement dans les gens qui nous ont contactés pour qu'on les conseille un petit peu, eux c'est un jeu de cartes en ligne un peu comme les cartes Magic, mais sauf que les cartes sont entièrement virtuelles et on les collectionne en ligne, etc. Et eux leur modèle c'est que toutes les deux semaines ils introduisent de nouvelles cartes. Et ils font comme ça. Et le problème, c'est que malgré tout.
C'est quasiment le modèle de Magic.
C'est ça.
C'est le modèle Magic.
Mais
c'est pas deux semaines, c'est deux mois.
C'est cher.
Mais leur problème, c'est que malgré ça, là, ça fait deux mois que tous les joueurs utilisent le même jeu. Et
mais ce qui est le cas à Magic.
D'accord.
Dès qu'une extension sort, il y a une stratégie dominante qui. De l'extension. Mm.
Apparemment, ils n'arrivent même pas à trouver un truc qui déquille la stratégie dominante actuelle. Quoi.
D'accord.
C'est ça le problème.
Même en faisant des nouvelles extensions.
Peut-être qu'ils les font mal, mais. mais apparemment c'est ça. Et leur problème, c'est qu'en plus, eux, ce sur quoi ils se font de l'argent, c'est pas un abonnement ni rien, c'est qu'eux, ils vendent les cartes. Ah. Et le problème, c'est qu'en gros, tout le monde a déjà les cartes gagnantes, et donc ils en vendent plus. Et donc, c'est un peu un problème, apparemment.
Juste, quand tu parles du rush dans StarCraft, tu parles pas du rush comme, enfin, du Commander Rush, c'est le rush... Parce qu'il y a aussi, il y a deux types de rush en fait.
Moi j'ai joué à StarCraft surtout en solo et après mon expérience multijoueur c'est
parce que pour moi dans StarCraft il y a deux types de rush. Il y a le Commander Rush, enfin il y a le rush normal qui consiste à attaquer le plus vite possible et il y a ce qu'on appelle le Commander Rush qui consiste à envoyer le Commander. Le Commander c'est le chef de l'armée. Sa particularité c'est que si on perd, on perd beaucoup d'énergie. Que quand il meurt, il explose et il détruit tout ce qu'il y a autour.
Total Annihilation.
Oui, tu je confonds avec Total Annihilation.
Ouais, je me disais aussi.
Dans Total Annihilation, il y a deux types de rush comme ça. Et en fait, le Commander Rush, ça correspond à exactement à ce modèle-là. C'est-à-dire que c'est rentable d'envoyer tout de suite son Commander, même si on va perdre plein de ressources, parce qu'en fait, il va exploser dans la base ennemie et l'adversaire va perdre beaucoup plus que ce que nous on va perdre.
Mais c'est ça que je trouve très intéressant avec les jeux, avec les STR, c'est qu'en fait, ils se ressemblent tous énormément et les stratégies de rush, ça existe dans beaucoup, ils ont tous les mêmes problèmes. Et c'est ça qui me fait dire que ce que je raconte est un tout petit peu robuste aussi. Quoi.
Non, mais je suis fatigué, je confonds.
Non, mais c'est intéressant quand même.
Mais en l'occurrence, d'ailleurs, il y a eu plus ou moins une règle tacite d'interdire
ça c'est intéressant aussi, c'est qu'après les joueurs font des accords entre eux, voilà. Il y a une espèce de norme sociale qui émerge pour éviter ça. Mais dans Total Annihilation d'ailleurs, dans mon souvenir, il n'y a pas de brouillard de guerre.
Si
je crois bien
Ou c'est qu'on voit pas la carte au début, mais une fois qu'on l'a découverte, il n'y a pas du brouillard qui se rajoute.
Je connais pas grand chose.
Ça serait intéressant de voir l'histoire du brouillard de guerre.
Ouais, mais justement, en jeu de stratégie, j'y connais pas grand chose. Et donc, à ma connaissance, il n'y a pas de jeu de stratégie où il n'y a pas de brouillard.
Mais c'est plutôt les anciens, justement. D'accord. Et je me demande si maintenant il y en a tout le temps, c'est pas parce qu'on s'est dit que c'était pas mal.
À mon avis, là où tu peux avoir du brouillard de guerre, c'est sur des parties qui vont se dérouler par correspondance. Si c'est sur le même plateau physiquement, tu ne peux pas faire le brouillard de guerre.
Ouais.
Sur Space War par exemple, ils ont introduit assez vite, le jeu est extrêmement modé comme on dirait aujourd'hui, ils introduisent assez vite du brouillard de guerre.
D'accord.
C'est-à-dire une vue limitée pour chacun des vaisseaux.
Ouais.
Donc ce qui suppose de jouer sur deux postes distincts en réseau.
D'accord.
Joueur de Space War.
Petite question à rendre sociaux dans le train. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, je suppose que ça a été pris en compte dans la théorie des jeux, et j'y pense à cause des échecs, parce que sur les échecs c'est limite. Beaucoup plus compliqué, je pense, que juste ça, ce qui a été dit, mais j'ai bien compris le fond. Quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension professionnelle auto-réalisatrice où on va arriver à tous se convaincre qu'il y a une stratégie d'équilibre, arriver à cet équilibre et se rendre compte que ce n'était pas du tout la stratégie optimale?
Oui et non, quoi. C'est-à-dire que c'est possible. C'est-à-dire, en fait, dans ce que j'ai dit, c'est que dans le petit truc que j'ai présenté avec les graphiques, là, ce qu'on suppose, c'est que s'il y a une théorie qui là-bas, il y a au moins une probabilité epsilonesque à chaque période que quelqu'un l'essaye. Quoi.
D'accord.
Et voilà, il se pourrait qu'il y ait des stratégies géniales, personne n'y a jamais pensé, etc. Ouais, ça, c'est très
possible. Ou de la rétention d'informations.
C'est très possible.
Oui, voilà.
ou quelque chose comme ça. Mais l'idée. De la rétention d'informations, sauf qu'il y a bien des gens qui vont perdre contre cette stratégie et qui vont se dire, tiens, c'est bizarre, pourquoi j'ai pas.
De la décrypter.
Hein ?
De la comprendre exactement.
Ils peuvent se dire qu'il y a quelque chose qui va pas, etc. Donc l'idée, c'est que nous, on s'intéresse, enfin c'est un peu le problème de la théorie des jeux d'ailleurs, c'est qu'on s'intéresse à des équilibres, donc à des espèces d'états finaux, et ce qui se passe, et voilà, les états finaux, si ça se trouve, c'est ce qui se passe au bout de millions d'années à jouer le jeu comme les échecs, et si ça se trouve, c'est pas très informatif sur ce qui se passe avant. Moi, mon point de vue, mais c'est pas un point de vue, c'est pas démontré mathématiquement, quoi. Mon point de vue, c'est que ça donne une idée de ce vers quoi des incitations que les agents ont à changer un petit peu, quoi. Mais pas forcément, par exemple, si je sais pas, même sur un jeu très simple, s'il y a des joueurs qui jouent pour la première fois dans une expérience, je vais certainement pas dire que dès le premier coup ils vont trouver l'équilibre. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les mecs, au bout de, même sur des trucs très compliqués, au bout de 20 coups par exemple, ils convergent assez vite, alors qu'au début ils font n'importe quoi. Donc voilà. Après, oui, c'est vrai, ça peut être autorisateur aussi.
Parenthèse sur les échecs, il y a encore beaucoup de marge. C'est Capable Blanca qui avait dit que le jeu était foutu il y a 70 ans.
Ah oui, non, c'est sûr,
Et ça tient le coup.
Non,
peut-être pas pour très longtemps. Ça
c'est sûr, mais n'empêche, c'est vrai que les exemples où on voit des grandettes qui jouent, qui font nul pendant je sais pas combien de parties, etc., on sent que c'est un peu ce vers quoi on se dirige, quoi. Peut-être qu'on le résoudra jamais complètement, mais voilà, que le nombre de parties nulles va quand même énormément
augmenter. Non, le nombre de parties nulles augmente, mais il continue à avoir un génie de 10 ans qui massacre tout le monde.
Ouais, voilà.
Qui remet la machine en route.
D'accord, ce que je veux dire, c'est que c'est moins. Voilà, c'est sur le long terme, on se dirige vers de plus en plus de parties nulles. Et voilà, pareil, c'est-à-dire, c'est un peu l'idée qu'on approche d'un état final hypothétique qu'on n'atteindra peut-être jamais, mais on s'en approche.
Je sais pas si vous avez une question. J'ai une petite question encore, enfin, mais je sais pas si vous. Comme on a plus beaucoup de temps, moi ma question n'est pas trop importante.
Prendre le train aussi.
Ouais.
Non, mais c'est juste que c'est dans ta démonstration, il y a quelque chose qui me gêne un peu, c'est que j'ai l'impression que tu sembles disqualifier en fait les méthodes d'amélioration type triche. Mais c'est peut-être mon sens, c'est peut-être une manière de voir un peu personnelle. Comme si finalement tu distinguais les bonnes méthodes pour arriver à un équilibre et les mauvaises méthodes pour arriver à un équilibre.
Ah non, pas du tout, moi je trouve au contraire que c'est une bonne idée. C'est-à-dire que si on. Dans pourquoi Civilization 2, c'est un excellent jeu, ça marche très bien.
Oui, pourquoi ça pas faire tricher l'IA finalement. Parce que moi je me souviens de grosses discussions sur des forums de joueurs de Civilization où ils disaient ouais, l'IA triche, c'est dégueulasse, etc.
Non, ça, moi, ça me
pose. Est-ce que vraiment c'est dégueulasse ?
Ça me pose aucun problème. Après, c'est juste une question de game design encore. C'est-à-dire, je pense que ça déplaît à pas mal de joueurs. Et moi-même,
l'idée
parfois,
que l'ordinateur puisse tricher.
Ouais. Moi-même, parfois, ça m'énerve un peu en tant que joueur, quoi. Après, sur le plan scientifique, je veux dire, les gens font ce qu'ils veulent, quoi. D'accord.
Non, mais voilà, ouais,
j'en ai pas dit.
Bon, on s'arrête comme ça en fond, il y a le jeu.
Et c'est un bricole.
Oui, bah, c'est
vraiment. Merci beaucoup.
Bah, merci
à vous. Ces questions théoriques.